Après avoir rapidement présenté ce qu'était Windows Presentation Foundation, nous allons réaliser notre première application WPF en manipulant des composants graphiques ainsi que le data binding.
Ainsi, lancez Visual Studio et créez un nouveau projet.
Ouverture de la page Visual Studio.
Ce coup-ci, choisissez Application WPF.
Dans la fenêtre Nouveau projet.
Nous allons nommer ce projet ma première application WPF.
Dans l'encadré Nom en bas de la fenêtre.
Et nommer la solution ma première application WPF solution.
Dans l'encadré Nom de solution.
Cliquez sur OK.
Ouverture d'une nouvelle fenêtre.
Au bout d'un certain temps, Visual Studio vous a généré le patron de projet d'une application WPF. Vous remarquez plusieurs choses. Sur la droite, n'apparaît plus le fichier main.cs. En effet, ici n'apparaissent que deux fichiers app.xaml et mainwindow.xaml. En réalité, des fichiers C# se cachent également dans le projet. En effet, cliquez sur les petites flèches à côté des deux fichiers XAML.
Dans la fenêtre de droite.
Vous devriez remarquer deux autres fichiers app.xaml.cs et mainwindow.xaml.cs. En effet, comme nous l'avons précisé, le XAML sera notre langage pour décrire la disposition des éléments de notre application, tandis que le C# sera le langage nous permettant de décrire la logique de notre application, à l'instar d'HTML et JavaScript pour le web. Sans plus attendre, appuyez sur F5 pour voir ce qu'est une application WPF vierge.
Le professeur ouvre sur une page mainwindow.xaml.
Vous devriez avoir sous les yeux une fenêtre vide avec des boutons de contrôle nous permettant d'arrêter le programme.
Il arrête le programme pour revenir à la page précédente.
Le contenu et la logique d'interaction de cette fenêtre sont contenus au sein des deux fichiers mainwindow.xaml ainsi que mainwindow.xaml.cs.
Il ouvre ce dernier fichier.
Nous avons préalablement dit qu'à la différence de Java, nous pouvions déclarer une classe dans un fichier qui ne portait pas le nom de cette classe. Mais le C# et le .NET vont plus loin. Ils nous permettent d'introduire la notion de classe partielle. Si je double-clique sur mainwindow.xaml.cs, vous pouvez voir devant le mot-clé « classe » qui me permet de déclarer ma classe mainwindow, vous pouvez voir le mot-clé « partial ». En effet, cela signifie que cette classe peut se retrouver définie dans plusieurs fichiers différents. Ainsi, en tirant parti des propriétés multilangage du framework .NET, la classe mainwindow se retrouve définie en partie dans le fichier mainwindow.xaml.cs et également dans le fichier mainwindow.xaml. Ouvrons ce dernier.
L'ouverture génère un patron de projet mainwindow.xaml.
En double-cliquant sur mainwindow.xaml, Microsoft Visual Studio vous offre une vue séparée, une vue splittée, avec le design de votre fenêtre et le code de cette dernière, ce qui vous permet de remarquer les changements que vous apportez au code XAML de votre fenêtre en temps réel.
Sous la fenêtre.
Le code XAML ci-dessous définit donc en partie une classe nommée mainWindow appartenant au namespace, l'équivalent d'un package en Java, ma première application WPF, et dérivant d'une classe mère Window.
Ouverture de C#.cs.
Nous pouvons retrouver ces informations côté C#. Nous avons bien une classe nommée mainWindow, dérivant d'une classe Window appartenant au namespace ma première application WPF. Côté C# est défini un constructeur pour cette fenêtre qui va appeler la méthode initializeComponent, étant une méthode héritée de la classe Window, et nous permettant d'initialiser tous les composants graphiques, entre autres, de notre classe mainWindow. Ajoutons maintenant quelques éléments graphiques à notre fenêtre. Double-cliquez sur le fichier mainwindow.xaml.
Retour au patron de projet mainwindow.xaml.
Changeons le conteneur par défaut de nos éléments graphiques. Nous n'allons pas utiliser une grille, mais nous allons utiliser un stack panel, c'est-à-dire empiler nos éléments graphiques de haut en bas. Pour obtenir une liste des contrôles visuels standards proposés par WPF, vous pouvez vous rendre à l'adresse indiquée sous cette vidéo ou bien cliquer sur l'onglet de gauche « Boîte à outils ». Pour utiliser ces derniers, vous pouvez soit les glisser-déposer à partir de la boîte à outils directement sur votre fenêtre, ou bien, comme nous allons le faire, modifier le fichier XAML directement. Gardez à l'esprit, cela dit, que chacun de ces contrôles est représenté par une classe du framework .NET.
Sous la fenêtre, le professeur écrit Stack Panel.
Voilà. À l'intérieur de notre Stack Panel, nous allons créer un label et un bouton.
Sous Stack Panel.
J'ouvre donc un chevron et je tape le mot Label.
Ceci est un label s'inscrit automatiquement.
Le contenu de ce label sera « Ceci est un label ». Vous voyez que mon interface réagit aussitôt.
« Ceci est un label » est affiché dans l'interface.
Et en dessous de ce label, un bouton.
Dans la rubrique Stack Panel, sous Label, il écrit « Button ».
Contenant le texte, cliquez ici.
À la suite de « Button », il écrit « Cliquez ici ».
Sauvegardons notre application. Appuyons sur F5. Nous avons donc notre fenêtre avec nos deux nouveaux éléments graphiques à l'intérieur, un label de texte et un bouton qui ne fait rien quand on clique dessus. Pour bien comprendre que ce que nous définissons à l'intérieur de ce fichier XAML se retrouve défini à l'intérieur de notre classe MainWindow côté C#, amusons-nous à donner un nom à nos éléments graphiques. Par exemple, donnons le nom
à la suite de label entre crochets.
Mon premier label à mon label. Pour ceci, écrivez x.name mon premier label.
Entre guillemets.
Faites de même pour bouton. Écrivez x.name mon premier bouton.
À la suite de button entre crochets.
Sauvegardez votre fichier en appuyant sur CTRL-S. Ensuite, rendez-vous dans votre code C#. Et la surprise, lorsque vous commencez à taper mon premier label ou mon premier bouton, l'autocomplétion de Visual Studio vous propose vos deux éléments. En effet, il s'agit de champs de votre classe, au même titre que si vous les aviez déclarés à l'intérieur de cette dernière.
Dans la fenêtre C#.
Pour bien se rendre compte qu'il s'agit des mêmes éléments, modifions après l'appel à la méthode initializeComponent le contenu de mon premier label.
Sous initializeComponent, le professeur inscrit mon premier label.content égale contenu modifié entre guillemets point virgule.
Ici, j'associe donc à la propriété content de mon label, mon premier label, la valeur contenu modifié. Sauvegardez votre fichier et exécutez votre application. Votre contenu a bien été modifié. Parlons maintenant de data binding.
Sur .xaml.
Admettons que vous ayez un autre label dans votre fenêtre. Nommez-le mon second label.
Sous mon premier label.
Et que ce dernier possède en permanence la même propriété content que mon premier label. Cela pourrait être fastidieux de vous occuper manuellement de cette synchronisation. WPF vous permet des mécanismes de binding très simples. En effet, il me suffit de spécifier dans mon deuxième label, mon second label, que sa propriété content,
il écrit content à la suite de mon second label,
sera déterminée par une liaison, donc un binding,
il écrit binding,
dont l'élément de référence sera mon premier label, et le chemin vers la propriété liée, donc path, sera content.
Il écrit content.
Je viens donc de spécifier que le contenu de mon second label sera synchronisé avec le contenu de mon premier label.
Ceci est un label s'inscrit sous le premier dans la fenêtre.
Ainsi, si vous appuyez sur F5, vous remarquez que les deux labels ont vu leur contenu modifié, alors que dans mon code,
retour sur .cs,
je n'ai modifié que le contenu du premier label. Le contenu du second label s'est donc fait modifier grâce au data binding. Une question se pose cela dit, que se passe-t-il si je décide de modifier le contenu de mon second label après que le contenu du premier label ait été modifié.
À la suite de mon second label, il écrit .content égale contenu modifié une seconde fois entre guillemets point virgule.
Donc vous voyez ici, après avoir modifié le contenu de mon premier label, je modifie le contenu du second label. J'appuie sur F5.
La fenêtre Main Window s'ouvre.
Et vous remarquez ici que seul le contenu de deuxième label a été modifié.
Retour sur .xaml.
En WPF, par défaut, les liaisons sont dans une seule direction. Autrement dit ici, le deuxième label ne se fera modifier que si le premier label se fait modifier. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si je souhaitais explicitement spécifier que cette liaison pouvait fonctionner dans les deux sens, il suffirait de préciser le mode de liaison comme allant dans les deux sens, two way.
En tapant mode, un menu propose two way.
Maintenant, si j'appuie sur F5, vous aurez le plaisir de constater que mon premier label s'est fait modifier suite à la modification de mon deuxième label. Ainsi, le contenu de ces deux labels sont ici parfaitement synchronisés. Vous venez de faire votre première expérience de data binding. Je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo pour nous intéresser aux boutons et aux événements qu'ils peuvent déclencher.
Un ovoïde bleu ciel vient se superposer à un premier bleu foncé dans lequel s'inscrivent en lettres blanches le groupe S2I. En petit carré de mosaïque brun, rouge, orange et or, le logo OC s'affiche à l'écran pour annoncer Open Classrooms.